Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous aide. Alors, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, je vous explique le principe de l'émission. Des témoignages de personnes en difficulté s'expriment, donc des personnes qui s'expriment sur les démarches qu'elles ont engagées, mais aussi sur les angoisses qu'elles ont par rapport à leur situation. Aujourd'hui, nous avons avec nous Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour.
Voilà, Régis Alter à l'antenne. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui vous arrive ?
Bah écoutez, j'avais donc une société qui a exercé une activité pendant une période d'environ un an et demi, qui a été mise en liquidation judiciaire au courant de l'été dernier, qui m'a amené à avoir pas mal de soucis de ce fait-là. Donc du fait de tout ce qui me tombait dessus, je commençais à avoir beaucoup de mal à gérer tout ça. Et donc j'ai fait appel à Crésus pour m'aider dans mes démarches, quoi. Voilà.
D'accord. Et cette société, elle existait depuis combien de temps ?
La société, je l'ai créée un an et demi avant. Je l'ai fermée l'année dernière. Donc c'était durant l'été 2009 que je l'ai créée. J'ai connu une période d'activité très forte. Et puis comme j'étais dans le domaine du bâtiment, je me suis pris un gros impayé, ce qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Et comme on est une société récente, on n'avait pas la trésorerie pour pouvoir continuer l'activité. Donc par obligation, j'ai dû liquider, quoi.
D'accord. Donc finalement, c'était un client qui vous a fait faux bond, c'est ça ?
À la base, oui, c'est comme ça que ça commence, quoi. Bon, le domaine du bâtiment est un domaine assez difficile où il y a pas mal de personnes qui sont parfois un peu de mauvaise foi. Quand on commence avec une petite société, on n'a pas forcément le poids nécessaire pour s'opposer et puis trouver forcément les bons clients. Donc voilà, au bout d'un moment, on se sent un peu pris en étau et voilà comment ça termine, quoi.
D'accord.
C'est malheureux, aussi bien humainement que financièrement, puisque dans cette histoire-là, j'ai pour ainsi dire tout perdu, quoi.
Oui, vous aviez fait vous-même un investissement financier au départ pour créer cette société, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je parle, c'est même pas trop l'investissement financier qui est difficile, parce que je pense pas avoir investi énormément dans la société, du moins pas de l'argent que je n'avais pas gardé de côté, si vous voulez. Mais c'est surtout tout ce qui est le préjudice moral, quoi. Je veux dire, vous donnez à 100% pendant 3 ans, 4 ans, le temps de monter le projet, de le faire mûrir et de le lancer, et puis tout ça pour rien, quoi. C'est humainement que c'est difficile. Et après, le fait aussi de liquider, les choses ne se passent pas forcément comme on se l'imagine, et donc, c'est un contrôle fiscal, c'est surtout de très très grosses questions qui se posent avec une opposition que j'ai avec les trésors publics, quoi. Donc c'est un peu ça qui me...
Oui, donc c'est vraiment l'esprit d'entreprise qui est contrarié, en fait, à la fois par le fait de la crise qu'on connaît aujourd'hui.
Disons, en France, on n'a pas le droit à l'échec, donc
voilà,
et dans la culture française, et je trouve ça malheureux, parce que j'ai pas gagné un sou, j'ai pas détourné un seul euro, chose qu'on me reproche au jour d'aujourd'hui, ou sur lesquelles on me questionne, et je trouve ça franchement insupportable, quoi.
Et donc
c'est vraiment insupportable.
Oui, donc parmi les créances aujourd'hui qui vous restent sur le dos, on peut dire ça ainsi, hein. Donc il y a effectivement une créance fiscale, c'est ça, et d'autres créances par rapport aux charges que vous avez à payer.
Voilà, ouais, tout à fait.
D'accord. Et le montant global de cette cumulé de ces créances s'élève à combien ?
Je suis sur un redressement de plus de 90 000 euros à peu près.
Ça commence à faire une somme, hein, 90 000 euros.
Ça fait une sacrée somme, oui, tout à fait.
Et donc là, vous avez... Oui.
Ce que je dois ajouter, c'est que dans l'exercice de la gérance de ma société, je ne peux pas dire que j'ai rose non plus, hein, parce qu'on est un peu tout seul au milieu de la mer à ramer comme un fou. On est plus omnibilé par l'activité de son entreprise et la faire survivre qu'autre chose. Donc sur la fin de l'existence de la société, je peux pas dire que j'étais tout rose. J'ai pas été à jour de toutes mes cotisations, etc. Donc ça m'est énormément reproché. Donc je ne le nie pas, si vous voulez. Mais la seule chose, c'est À la suite de la liquidation, on est vidé, on est éreinté, on n'a plus franchement la force de se battre. Et puis c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées, qu'il faut encore se battre. Donc rajouter tout ça à la fatigue morale et physique que l'on peut avoir, rend le tout très difficile à supporter, quoi.
Oui, et pourtant, et c'est là qu'il faut être le plus fort, je dirais, parce que là, c'est là que le rouleau compresseur commence à se mettre en route, hein. Et quand on est démotivé, comme vous dites, épuisé par ces années justement où vous avez soutenu, je dirais, à bout de bras votre société, et que vous voyez finalement que ça ne porte pas ses fruits, effectivement, on peut comprendre la démotivation et je dirais aussi un peu de lâcher prise à un moment donné.
Ce qu'il y a, c'est que tout bascule en une semaine ou deux semaines, hein, il faut pas beaucoup de temps. Après c'est les banques qui commencent à s'en mêler, donc ça vous empêche de dormir longuement. Après vous êtes obligé de liquider, donc vous vivez ça comme un échec personnel. Un échec personnel. Après ça, forcément la vie de famille en pâtit un petit peu parce que vous êtes la tête ailleurs et vraiment pas bien. Après ça commence le rouleau compresseur, donc trouver la ressource nécessaire est vraiment difficile. Et c'est ce qui m'a amené à prendre contact avec Crésus, parce que j'étais comme tout le monde, hein, j'ai donné mes derniers sous, je m'aperçois que le rouleau compresseur démarre et qu'il faut payer, c'est vraiment...
Alors vraiment... quel a été le soutien que vous a apporté Crésus quand vous êtes allé...
Bon, moi je suis allé là-bas purement pour une histoire de conseil.
Oui.
Bon, j'ai une chance, c'est que je sais la valeur de mon travail, je sais que je pourrais toujours trouver du travail, Dieu merci. Je sais que la valeur de mon travail est là et que je pourrais toujours travailler, gagner mon argent, me refaire quelque part. Donc quelque part, je veux dire, au niveau mental, déjà, si ça va, j'arrive à tenir. Même si je prends pas d'antidépresseur ni quoi que ce soit, je me dis que c'est pas ce qui va m'aider à faire face à mes problèmes, ils sont toujours là. Donc déjà, au niveau de la tête, ça va pas trop mal, d'autant plus que j'ai la famille qui me suit. Mais ce qu'il y a, c'est que au démarrage, j'ai poussé la porte de Crésus pour prendre des conseils, notamment juridiques.
Oui.
Parce que bon, les conseils juridiques, au début, on sait pas trop par quel bout prendre toute l'affaire. Donc j'ai contacté Maître Thierry Edmond. Pour simplement prendre conseil, et lui par la suite m'a aidé dans une histoire de référé avec ma banque.
Oui.
Et par la même occasion m'a orienté vers une autre personne qui pouvait peut-être me conseiller sur l'aspect plus patrimonial des choses, ce que je pouvais faire, ce que je risquais, etc.
Sur le référé, donc c'est un référé pour demander des délais de paiement, c'est ça?
J'ai une caution personnelle à laquelle je dois faire face, donc
oui.
C'est à ce sujet-là. Moi, je suis en conflit avec ma banque parce que j'ai déjà payé une partie de mon prêt, un tiers. Hein,
donc, bien sûr, oui.
Qui a un tiers de la caution personnelle qui ne devrait pas être due puisque j'ai tout remboursé. Donc, voilà, ça c'est vraiment le motif qui m'oppose à ma banque.
Après, d'accord.
Il faudra bien que j'y fasse face puisque je peux pas dire que je l'ai pas signé. Hein,
bien sûr, oui, oui.
Voilà, c'est une histoire supplémentaire à laquelle il faut faire face, et puis des frais supplémentaires.
Oui, donc on comprend bien qu'effectivement, il y a une multitude de démarches à engager pour se défendre.
Hein, il y en a plein. Moi, je suis qu'au début, hein, je suis même
exactement.
Pas là pour tout ça. Mais moi, à mon avis, cette histoire-là va encore me poursuivre pendant une année ou deux. Hein. Donc, je le fais parce qu'il faut le faire, mais vraiment...
Des fois,
la niaque nous manque un petit peu, quoi.
Oui. Mais vous savez que je dirais qu'à Crésus, on est là aussi pour vous motiver, hein, pour vous expliquer quelles sont les possibilités, et justement de pas vous laisser abandonner justement à cette démotivation, à ce qui est légitime, mais justement il faut pas baisser les bras. Hein. Et je crois que c'est assez important. Alors si vous aviez un conseil ou des recommandations à faire à nos auditeurs, que pourriez-vous leur dire?
Bon, déjà la base, c'est déjà la famille. Je pense que quand on a une famille, quand on est dans une situation pareille, tout le monde en pâtit, et surtout dans la mesure du possible. Je pense que la première chose à éviter, c'est encore des dégâts dans la famille. Je pense que ça, c'est franchement...
Donc préserver la famille, hein, des problèmes.
Hein. Clair et net, je veux dire, c'est la base, c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que c'est ce qu'on a aussi de plus cher dans sa vie. avant même les histoires d'argent, etc. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est d'avoir, de reprendre espoir. Parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui sont entrepreneurs dans l'âme sont tous un petit peu également des hyperactifs dans l'âme. Donc, il faut profiter, Il faut essayer de faire en sorte que tous ces malheurs vous permettent de rebondir. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Mais rebondir, c'est facile à dire, mais c'est jamais évident à faire. Ça met du temps, ça demande beaucoup d'énergie et de pugnacité, mais quand on le veut vraiment et qu'on y pense tous les jours, on y arrive. Et une autre chose, c'est s'entourer de... La troisième chose, c'est s'entourer de ses amis également, prendre conseil. Encore une fois, quand on est entrepreneur, je pense qu'on a un sacré réseau, donc il faut faire jouer son réseau pour rebondir, pour... si on a besoin de retravailler, de recommencer à travailler dans des conditions qui sont correctes et puis essayer de se reconstruire, quoi. On n'en sort jamais vraiment le même.
Alors pour résumer, Laurent, finalement, c'est préserver la famille, préserver les amis et puis toujours rester pugnace, hein.
Ouais.
C'est vraiment les trois conseils.
Pas perdre la foi.
Voilà, c'est exactement ça, hein. Il faut avoir foi en soi. Vous l'avez dit, vous l'avez bien exprimé, hein. Je crois que c'est vous avez une capacité effectivement de rebondir et vous en êtes conscient. Ça, c'est important. Et après, effectivement, trouver des ressources au sein de la famille et des amis, hein, pour être soutenu. Ça, c'est aussi une priorité, hein. Et bien sûr, Crésus est là pour vous apporter aussi les éléments d'information, oui, de recommandation. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi un élément qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces informations et puis surtout pour le vécu que vous avez bien voulu nous transmettre, hein. Je crois que c'est très important pour ceux qui nous écoutent et pour que justement ils puissent...
Ce n'est que le début, mais ça continuera et je remercierai toujours le Crésus de m'avoir aidé, de m'avoir aidé déjà dans le début de mes démarches. Je pense que je ferai encore appel à eux au courant des prochains mois et de l'année qui va venir, très certainement. Mais le message principal, c'est il faut se battre, faut pas perdre espoir et puis s'entourer des personnes il y a des personnes qui sont là pour ça et ce serait dommage de se renfermer sur soi-même et de pas faire appel aux bons conseils qu'on puisse avoir à gauche et à droite.
Quoi. Et ben voilà. Alors pour le mot de la fin, battons-nous.
Ouais.
Voilà. Battons-nous. Et à très bientôt, Laurent. Merci.
Très bien, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.
Fuerte y mi mano más segura, señora de Guadalupe, amante de tanta gente, haga que yo le venga. Che io le vengo, Lady of Guadalupe, make my sight clear, Lady of Guadalupe, make my breath pure. Make my strong arm stronger and my fingers tight, Lady of Guadalupe, loved many. Make me avenge them. Make me avenge them.
Oui, on enchaîne immédiatement avec Bernard. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Alors Bernard, vous souhaitez vous exprimer sur Radio Crésus.
Est-ce oui.
Que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui?
Bah, disons que difficultés financières.
Oui, de quel ordre? Dites-nous.
Bah, disons que je me suis laissé piéger suite à... Bon, ouais, en gros, j'ai divorcé. Bon.
Ça s'est pas bien passé.
Moi, comme je n'étais ouais. pas resté sans travail, j'ai trouvé du travail de week-end. Et disons que le divorce m'a un peu...
Chamboulé.
M'a traumatisé.
Traumatisé, d'accord.
Oui, bon, et puis j'ai trouvé, pour pas m'embêter, j'ai trouvé du travail où je travaillais le week-end.
En plus de la semaine?
Oui.
D'accord, donc vous travaillez 7 jours sur 7?
Non, mais disons que je faisais une ligne en tant que chauffeur routier.
D'accord.
Quand je suis arrivé en Alsace, j'ai trouvé une ligne où je partais sur Madrid et moi j'habitais Valence. Dans la Drôme.
Oui.
Bon, je partais le vendredi soir. Et je descendais à Madrid.
D'accord.
Et je remontais dans la semaine, je m'arrêtais à Valence. Et puis, si vous n'êtes pas là, en amour, bah oui, j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de mes affaires.
Ah, et c'est là que sont venus les problèmes budgétaires, financiers, c'est ça?
Oui.
Voilà. Alors, c'est quel type de problème que vous avez ou quel type de créance ou d'impayé?
Disons que j'ai laissé traîner, quoi.
Oui. Et
c'est quoi les... Il n'y avait pas de temps de m'occuper. Alors, bon, bah, c'est les problèmes de loyer, c'est les problèmes de... C'est les problèmes d'impôts, vous voyez.
D'accord. Et des
problèmes comme ça, puis des choses que j'ai laissé traîner, que j'aurais pas dû laisser traîner.
C'est aussi des crédits ou pas?
Ouais, mais bon, bah, le caddie, j'en ai un ou deux qui traînent, mais bon, ils sont presque réglés, ceux-là.
Oui, c'est des petits montants?
Ouais.
Quoi, 1000 euros?
Non, le loyer, c'est assez gros.
C'est combien le loyer, par exemple?
Le loyer, il y a 15 000 euros.
D'accord, ça fait combien de mois de retard, ça?
Ça fait une vingtaine de mois de retard.
20 mois, c'est énorme. Vous payez pas beaucoup de loyer, finalement.
Non. Oh, et ça, je me souviens plus, quoi. C'est approximatif. 20 000 euros, oui, je veux dire.
Oui, ok. Donc, c'est plus conseillé. 20 000 euros, oui, c'est pas pareil, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour enrayer ce problème budgétaire?
Ben, disons que... si vous voulez parler, il y a encore un autre problème qui est venu avant de parler de ça. Il y a un autre problème qui est venu s'ajouter. C'est que bon, c'est que... Oui. J'ai eu pas mal d'affections. Bon, j'ai eu un cancer. J'ai eu des fractures. Bon, si vous voulez parler, ça n'a rien arrangé.
Oui, l'état de santé fragile.
Un état de santé, puis
et inquiétant.
Bon,
d'accord.
J'ai eu le. Bon, je suis à l'hôpital et je me suis retrouvé avec une arythmie cardiaque. et tout ce que vous voulez.
Et donc, tous ces événements, ça a participé finalement à ce que votre...
Tous les événements que j'ai eus sont...
Votre situation s'aggrave.
Que la situation s'aggrave, et puis quand vous êtes malade, vous pensez pas à...
Ben on n'a pas toujours le temps de s'occuper effectivement à la fois de sa santé et à la fois de toutes les paperasses administratives. Et donc, du coup, vous avez pris du retard dans certains paiements, ce qui a entraîné après des réactions de vos créanciers, je pense, ils sont venus vous voir pour vous réclamer l'argent.
Oui, les huissiers, j'ai été mis à la porte de mon logement.
Donc, ils vous ont expulsé, c'est ça?
Exactement.
Hein. Et aujourd'hui, vous vivez où?
Dans un foyer.
D'accord.
À Dommal, à 300 route de Colmar.
D'accord.
Ouais.
Et vous êtes en cours de règlement de ces difficultés ou vous êtes encore dans la difficulté aujourd'hui?
Bah, disons que je suis toujours, il n'y a rien encore de prévu.
Est-ce que vous
avez... Là, ce que j'ai fait, j'ai demandé une curatelle.
Oui.
Bon, j'attends, on doit me donner la réponse cette semaine.
Parce que vous sentez en danger, je dirais, que vous avez besoin d'un soutien, justement, pour la gestion?
Exactement. Bon, on m'a dit de passer par Crésus également.
Oui.
Alors, bon, c'est pour ça que j'ai été vous voir.
Pourquoi faire, Crésus?
Pour Crésus, pour le... Comment dirais-je?
Pour un dossier de surendettement?
Un dossier de surendettement.
D'accord. Et ça, vous l'avez fait?
J'ai fait.
Avec Crésus, d'accord. Et vous l'avez déposé, le dossier?
Non, parce que je vois monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Hein.
Oui.
Je le revois. Là, je suis en train de le préparer.
D'accord. Et le prochain rendez-vous, c'est bientôt?
Ouais, c'est bientôt.
Donc il faut bien remplir le dossier avec toutes les pièces qui sont demandées. Hein.
Ouais, exactement, là, je suis dessus. Hein.
D'accord. Donc c'est important parce que ça, je dirais, mieux le dossier sera complété et plus facile sera son traitement. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Et Crésus est là pour vous aider à le faire. Hein. Donc ça, il faut bien le comprendre. Sachant que ça fait partie d'une des mesures qui vous permettra, vous, de retrouver une situation, je dirais, cadrée avec une possibilité de sortie de votre surendettement. Hein, parce qu'on
a bien... Ah ouais, je voulais pas, je vous dis honnêtement, j'osais pas dire, mais je le dis quand même.
Oui.
Je voulais pas m'en sortir.
Oui.
J'en avais rien à foutre en parlant poliment. Et puis bon, maintenant, disons que il y a un événement qui est venu s'ajouter là depuis quelques temps. Alors bon, j'ai l'intention de m'en sortir parce que vivant seul, c'était pas évident.
Oui, on
alors,
comprend
bon,
bien.
Alors
bon,
disons que j'ai trouvé quelqu'un peut-être.
Et cet événement qui vous a fait changer d'avis et de...
J'ai retrouvé, disons, je commence à fréquenter une compagne.
D'accord.
Une dame, alors bon,
C'est la vie de couple qui vous a redonné le goût de vivre,
non,
c'est ça?
Non, c'est pas elle qui m'a donné goût à ça. Disons, ce qui m'a donné goût à reprendre un peu la vie, c'est que j'ai été suivi par des gens que je ne dois pas décevoir, quoi.
D'accord.
Par l'assistance sociale les assistantes sociales.
D'accord. C'est important de donner un sens aussi à ce qu'on fait.
Ouais. Hein?
Et je crois qu'à Crésus, on est aussi beaucoup attaché à ça. Hein? Les démarches qu'on engage avec les personnes qui viennent nous voir, c'est aussi leur donner du courage, leur redonner effectivement l'espoir aussi, parce que souvent cet espoir est perdu. On sait que les situations de surendettement, c'est souvent l'anéantissement.
Oui.
Hein?
Moi,
oui.
Vous savez,
Bernard.
Quand j'ai eu ce cancer, je me sentais perdu, quoi.
Mais c'est bien légitime, on comprend bien votre situation, bien qu'on soit pas, on ne vive pas ce que vous avez vécu, mais on peut comprendre effectivement que le monde autour de soi s'effondre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui vous êtes dans une démarche qui est positive, hein. Vous avez vous décidez effectivement de reprendre les choses en main, ça c'est très bien. Pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner sur la manière de traiter les problèmes financiers que vous connaissez?
Disons que c'est de suivre son courrier, de suivre ses affaires au jour le jour. Bon, moi, je suis peut-être un cas spécial à cause de ma profession que j'avais avant.
Oui.
Parce que moi, quand j'arrivais d'Espagne, je regardais le courrier par-dessus la jambe.
Oui.
Et puis bon, moi, je dis ça se réglera la prochaine fois ou ça se réglera.
Oui, vous.
Alors, je me suis laissé.
Oui, vous sentiez pas très concerné par tout ça.
Par et le
vous
courrier, preniez...
voilà.
On verra la prochaine fois.
Et puis finalement, bon, on sait que ça peut avoir des conséquences après sur le quotidien, hein, négliger ces points-là. Alors c'est important ce que vous dites, hein, ça veut dire qu'il faut effectivement être toujours réactif, hein, c'est ça ?
Vigilant.
Être vigilant aussi, hein. C'est exactement le mot. Donc soyons bien vigilants, Bernard, hein, je crois que c'est ça.
Ouais.
Et puis surtout, merci beaucoup pour votre témoignage émouvant qui nous a effectivement beaucoup éclairé aussi sur la manière dont les choses peuvent se dégrader, hein, avec toute...
Les gens qui sont dans ma situation, moi je les encourage à regarder plus son courrier, mais on n'a pas tous les mêmes problèmes. Bon, il peut vous arriver une
Mais le conseil vaut pour tout le monde, hein, je crois, Bernard. Je crois que c'est un conseil universel, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre témoignage et vous souhaiter, je dirais, une bonne continuation et courage pour la suite. Hein. Merci beaucoup, Bernard.
Je vous remercie.
Au revoir.
Allez, au revoir.
The world I've thrown. new smile, a new friend who looked a lot like you. A new boy, a new man who looked a lot like you. Ooh.
Crésus, la radio qui vous aide.
Nous poursuivons notre émission sur Radio Crésus avec le témoignage de Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Voilà Sonia, est-ce que vous pouvez nous relater votre situation ?
Donc j'ai repris un salon de coiffure il y a 2 ans et demi environ. Et la première année, ça se passait très bien, étant donné qu'il y avait peu de charges. Mais la deuxième année, une fois qu'ils ont le bilan, il y a TVA et compagnie, il y a toutes les charges qui vous tombent dessus. Et puis ça s'accumule jusqu'à un moment où on a du mal à suivre. Donc ça s'enchaîne, et puis ça commence avec des pénalités de retard, et puis ça devient un cercle vicieux, et à un moment donné, on voit qu'on n'arrive plus à suivre, donc à un moment donné, il faut faire un choix, c'est-à-dire, on se dit, vaut mieux arrêter pour limiter les dégâts, en fait, d'accord, pour pas empirer la situation financière.
D'accord. Donc, pour bien comprendre, donc c'est l'activité, c'est un salon de coiffure, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Et donc, c'est vrai que la première année, en tout cas, ou au début de l'activité, les charges sont allégées.
Oui, oui.
Donc, vous étiez mise à votre propre compte ?
Oui, tout à fait.
C'est ça. Donc, vous avez effectivement repris une activité qui fonctionnait bien. C'était une nouvelle, une reprise ou une...
C'était une reprise, oui.
D'accord. Donc, il y avait une clientèle qui était bien présente déjà ?
Oui, déjà, oui.
D'accord, ce qui permettait d'avoir un chiffre d'affaires correct ?
Plus ou moins. Bon, c'était une affaire à développer quand même.
Oui.
Mais bon, vu la concurrence qu'il y a, le nombre élevé de salons de coiffure qu'il y a dans le secteur, et puis les coiffeurs qui cassent les prix aussi, c'est pas évident de développer de nos jours une affaire, quel que soit le domaine, hein, que ce soit en coiffure ou dans un autre domaine.
Oui. Alors vous avez parlé effectivement des charges qui sont arrivées la deuxième année, donc vous avez parlé de la TVA, vous avez dit TVA et compagnie, c'est qui compagnie, c'est d'autres...
Il y a TVA, quand on est à son compte, on a un autre régime au niveau santé,
oui.
C'est-à-dire le RSI, les cotisations sont très très élevées et on n'est pas remboursé à 90%, on est remboursé qu'à 70%. Enfin bon, il y a quand même pas mal de désavantages par rapport à un statut de salarié.
Alors juste une précision peut-être pour nos auditeurs, hein, puisque la radio est écoutée par l'ensemble de la France. Hein. C'est vrai qu'en Alsace-Moselle, on a un taux de remboursement quand on est salarié de 90%.
Oui.
Au niveau des frais de santé, et dans le reste de la France, à 70%. Hein. Et donc là, on est effectivement, quand bien même on est en Alsace, remboursé à hauteur de 70% au régime, c'est ça.
Oui, mais bon, en tant qu'artisan, c'est 70%.
Hein. Voilà, et donc si on veut une mutuelle après qui complète effectivement les remboursements, cette mutuelle a un coût qui est aussi élevé.
Oui, voilà.
Donc tout ça, effectivement, c'est des charges qui participent finalement, à un moment donné, à la dégringolade si le chiffre d'affaires n'est pas suffisant.
Oui, voilà, exactement.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui explique qu'à un moment donné, effectivement, vous n'aviez pas suffisamment de rentrée d'argent. Non. Donc la clientèle, la concurrence, ont fait que finalement, il aurait fallu avoir plus de chiffre d'affaires.
Oui, effectivement, oui.
C'est ça. Et du coup, vous êtes retrouvé coincé avec toutes ces charges à devoir payer.
J'arrivais plus à joindre les deux bouts. Donc,
Comment est-ce qu'on vit cette situation où, en tant qu'artisan, je sais qu'on travaille beaucoup. On se lève très tôt le matin, on termine très tard le soir. Certes, on est à son compte, c'est vrai, mais d'un autre côté, je dirais qu'on ménage pas sa peine, on ménage pas sa sueur. Et comment est-ce qu'on perçoit, je dirais, cette situation où on travaille, et finalement, on a l'impression de pas s'en sortir financièrement?
Ben, on ressent ça comme une injustice, et puis à un moment donné, il y a une certaine lassitude qui s'installe, parce que bon, on a beau aimer son métier, mais le but finalement, c'est aussi de gagner quand même quelque chose. Donc à partir du moment où on voit qu'on travaille juste encore pour payer, donc autant arrêter, hein, parce que...
Oui, dans votre situation.
Il n'y a plus aucun intérêt. Hein.
Oui. Parce que quand vous dites gagner quelque chose, c'est gagner sa vie, tout simplement. Hein.
Voilà, tout simplement.
C'est bien ça dont il s'agit.
Exactement.
Et vous êtes au contact de l'humain, hein, dans votre activité. Et c'est vrai qu'une une démotivation et puis une perte, je dirais, de volonté de faire bien les choses. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus du tout dans le. On se demande à quoi ça rime, c'est ça? Je pense.
Oui, voilà, exactement.
Donc la clientèle le ressent.
La clientèle le ressent, oui.
Oui, et du coup, ça peut avoir aussi un impact après sur les rentrées d'argent, moins de clients, moins de rentrées d'argent, et les charges qui sont toujours là, et donc.
Et les charges sont toujours là.
Oui, donc l'équilibre est fragile finalement.
Oui, très.
Très fragile. Donc aujourd'hui, vous avez pris quelle décision concernant votre affaire?
Ben là, je fais une liquidation judiciaire.
D'accord. Donc vous avez, comme vous l'aviez dit en début d'entretien, finalement rien ne sert de poursuivre pour une activité qui est incertaine, hein, au niveau des.
Non, parce que ça va faire que s'empirer et donc c'est vraiment bon. J'ai bien réfléchi de toute façon et ça sert à rien de continuer parce que ça va être de pire en pire. Donc, autant arrêter et puis...
Donc, ça, c'est vous êtes relativement lucide par rapport à la situation. Ça, c'est important.
Comment ?
Vous êtes lucide. Pardon ? Vous êtes très lucide, je dirais, par rapport à la situation
oui,
financière.
Bon, c'est pas évident. C'est une décision qui n'est pas... Bon, c'est difficile à vivre. Mais des fois, on n'a pas d'autre solution. Hein. Pour moi, je dis, bon, j'arrête. Et puis, il faut faire autre chose ou chercher un travail en tant que salarié.
En tant que salarié.
Moi, je ne me mettrai plus jamais à mon compte, hein, ça c'est sûr.
Oui. Le salarié est quand même plus rassurant, c'est ce que vous dites,
c'est ça? Rassurant, parce que même, disons, en cas de licenciement, au moins un salarié touche du chômage. Moi, là, j'arrête mon activité, je n'ai rien. Je n'ai pas de chômage, je n'ai rien. Si je n'avais pas d'amis, je me retrouverais carrément dans la rue. Hein. Je n'ai pas de chômage, j'ai rien, aucune couverture.
Oui. Mais c'est vrai qu'il est dommage que l'esprit d'initiative soit contrarié aujourd'hui, hein, parce que ça fait vivre, tout ça, ça fait partie du tissu économique, hein, les artisans. C'est très important, hein, dans le développement économique d'un pays. Et aujourd'hui, on voit toutes les difficultés que vous rencontrez. Tout ce que ça implique. On voit toutes les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'artisan.
Oui, c'est pas évident. Hein. Pas évident de faire face à tout ça. Mais...
Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui vous écoutent, qui nous écoutent?
Qui sont dans la même situation.
Qui pourraient être effectivement dans la même situation.
Un conseil... c'est pas évident de conseiller dans ces cas-là, mais bon.
Mais je crois qu'il faut.
En tout cas, personnellement, je me remettrai plus jamais à mon compte. Hein. Je dis, de nos jours, vaut mieux avoir un statut de salarié. Il y a beaucoup plus d'avantages, plus de sécurité, et puis on fait ses heures, son travail.
Oui.
Et puis, il n'y a pas toutes ces responsabilités, aussi bien morales que financières.
Oui. Alors, c'est effectivement une réponse, mais je dirais que malheureusement, aujourd'hui, il faudrait développer l'esprit d'initiative, hein. C'est ce qui est important, hein, pour qu'un pays soit dynamique, hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que le salariat, c'est pas nécessairement le dynamisme qu'on attend dans notre société, hein. Certes, les entreprises embauchent. Alors, c'est important. Vous auriez pu, effectivement, si votre salon de coiffure avait connu un développement différent, embaucher du monde, des salariés. Et dans ce cas-là, effectivement, là, c'est profitable, hein. Mais je crois que ce qui est important, c'est effectivement aussi que le tissu économique, par le biais des artisans, soit réel et existe bien, hein. Alors, on voit que c'est pas simple, hein. C'est vrai que dans les deux ans, les deux premières années, c'est très difficile. On sait que le passage est là déterminant. Et c'est là qu'on voit effectivement les entreprises qui ont une possibilité de développement ou pas, hein. Oui. Et là, on a vu effectivement que votre situation n'a pas été, enfin, l'environnement n'a pas été favorable, hein, ce qui explique votre situation. Merci Sonia, c'est bien Sonia, oui. Merci Sonia pour toutes ces précisions. On est très sensible effectivement à votre témoignage, et en espérant qu'il puisse effectivement être utile pour nos auditeurs, hein, qui sont à l'écoute de Radio Crésus.
D'accord.
À très bientôt. Merci.
Voilà, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir et bonne journée.
Merci. nous avons avec nous Alain pour témoigner sur Radio Crésus. Alain, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous arrive aujourd'hui ?
Eh bien, ce qui m'arrive aujourd'hui, avec mon épouse, nous sommes en surendettement, hein, c'est-à-dire que depuis 82, nous nous sommes mariés et depuis, nous avons effectué des crédits, hein, principalement des crédits revolving. Hein, dans un premier temps, je travaillais dans le civil à Paris, sur Paris, et
oui.
En 92, j'ai changé complètement de situation, c'est-à-dire que de technicien en électronique, je suis passé, j'ai fait l'école de sous-officier de gendarmerie.
D'accord.
Que j'ai réussi.
Bravo.
Et bon, le fait de changer de travail, bon, j'ai perdu quand même du salaire,
hein, oui.
Dans un premier temps. Et mon épouse, me suivant, donc elle a perdu son travail elle aussi. Donc ce qu'on a fait, ben, pour ne pas avoir d'impayés auprès de qui que ce soit, ben on a pris des crédits, et ces crédits, à l'heure actuelle, ben, on a 20 crédits différents.
20 crédits.
Et oui. Il a fallu qu'on prenne le taureau par les cornes, comme
oui,
on dit,
oui.
Et on a fait un dossier de surendettement l'année dernière, qui a été recevable par la Banque de France.
Hein. D'accord.
Et quelques temps après, nous avons reçu un courrier de la Banque de France nous informant qu'un des créanciers faisait appel à leur décision.
Oui.
Donc là, on a été convoqué devant le tribunal d'instance, où la décision du juge, ben, ça a été de confirmer l'irrecevabilité de notre dossier.
Oui.
De là, nous avons effectué une demande d'appel qui a été acceptée, et l'appel, la décision de l'appel, ça a été confirmation du premier jugement. Donc là, on a pris contact par courrier recommandé avec chacun de nos créanciers en leur demandant si on pouvait obtenir de leur part un arrangement à l'amiable. Alors là, ça a été un grand fiasco, parce que aucun des créanciers n'a répondu à notre courrier. Et si vous préférez, à part Carrefour, hein, la banque Carrefour,
oui.
Qui, notre interlocutrice, nous a indiqué vos coordonnées.
Oui.
Et on a pris contact avec vous.
D'accord.
Et de là, la personne avec qui nous traitons, de votre association Crésus, nous a expliqué le déroulement de la suite, hein, parce que bon, c'est un grand,
ah, c'est
un
vrai
grand
que c'est,
flou quand,
c'est une procédure,
quand ça vous arrive. Hein.
Oui, c'est une procédure assez complexe, la procédure de surendettement. Alors vous l'avez déjà bien développée, hein, puisque à partir du moment où il y a une recevabilité par la commission, cette recevabilité peut être contestée, et ça vous l'avez vécu.
Tout à fait.
Hein, puisqu'un créancier n'était pas d'accord avec cette position de la commission. Vous avez effectivement, dans la procédure, on a vu que le juge peut intervenir. C'est ce qui s'est passé au niveau du tribunal d'instance.
C'est ça.
Qui a confirmé l'irrecevabilité. Et encore sur les autres possibilités d'appel. Hein, donc, qui confirme effectivement l'irrecevabilité. Et dans votre situation, en fait, vous n'avez pas pu bénéficier finalement de la procédure de surendettement au
non,
final.
Non. Tout à fait.
Voilà, bien qu'au départ, a priori, la commission avait s'était positionnée de façon favorable. Hein.
Ah, tout à fait. Hein. On avait reçu le document de la Banque de France, comme quoi notre dossier était recevable, hein, et que la procédure allait partir, c'est-à-dire qu'un plan allait être défini et ainsi de suite. Et le créancier qui a fait appel, on va dire, a tout cassé, quoi.
Voilà, alors c'est vrai que je pense que l'angoisse et puis surtout la déception a dû apparaître à ce moment-là. Hein, quand, bien sûr, vous avez eu la décision de recevabilité, donc là c'était une bouffée d'oxygène.
Tout à fait.
Et puis après, effectivement, c'est tombé comme un soufflet quand vous avez appris effectivement cette position du créancier et celle des magistrats. Alors, ça veut dire quoi finalement cette irrecevabilité ? Ça veut dire que vous n'avez pas le bénéfice de cette procédure de traitement collectif, hein ?
Oui, c'est ça.
Hein, c'est-à-dire que finalement, la procédure de surendettement a la vocation à faciliter le règlement des difficultés vis-à-vis des créanciers, puisque la commission va traiter. Elle aurait eu à traiter avec les 20 créanciers que vous avez.
C'est ça.
Et
les
là,
c'est un dossier différent.
Voilà. Et là, en l'occurrence maintenant, c'est à vous de négocier, de vous battre.
Bah, directement avec, avec les créanciers.
Avec
et
chacun
là,
c'est
excusez-moi l'expression, mais une grosse galère.
Voilà. Donc
une énorme galère parce que là, c'est... On s'aperçoit que, bon, nous, on nous avait reproché une mauvaise foi,
hein, oui.
Et par l'un des créanciers, et on s'aperçoit que ben, la mauvaise foi, elle est placée dans les deux sens, là.
Voilà, donc vous voulez dire que la banque ou l'établissement de crédit a lui aussi à sa part de responsabilité et qu'elle n'a pas été prise en compte, c'est ça ?
Tout à fait. Tout
voilà.
à fait.
Hein.
Là, si vous préférez, le fait aussi de ne pas avoir cette procédure de surendettement engendre pas mal de gros problèmes puisqu'on traite directement avec les créanciers.
Alors vous pouvez peut-être en parler de ces difficultés au quotidien, un ou deux exemples.
Bon, au quotidien, c'est des lettres, c'est carrément des lettres de menace, hein, de la part de ces créanciers qui, dans un premier temps, c'est eux qui ont les dossiers. Et envoie les dossiers après dans des services de contentieux où là c'est on va dire c'est du grand n'importe quoi, hein. Tout simplement on a un créancier par semaine c'était on va dire entre 15 à 20 appels téléphoniques.
D'accord.
Par semaine.
Et pour recouvrer quel montant?
Celui-là, ça devait être une somme de 10 000 euros.
D'accord. Et donc ça, c'est effectivement dans une semaine 15 à 20 appels, donc ça veut
oui,
dire
tout
que...
Oui, tout à fait. À un tel point, c'est que, bon, c'était aussi bien sur le téléphone fixe ou sur le téléphone...
Par tous les moyens possibles, en fait.
Portable de mon épouse, à un tel point, c'est que ben, on a décidé de changer de ligne téléphonique, ne serait-ce déjà que sur le portable de mon épouse.
Pour vous protéger de ces appels répétés et...
C'est ça.
Voilà. Alors c'est vrai que...
Bon, il y a ce côté d'appels de harcèlement sans arrêt, hein, où on leur propose certaines choses, mais on n'a bien sûr jamais de réponse.
Oui.
On n'a jamais d'écrits de leur part. Et les seuls écrits qu'on va avoir, on a aussi, par exemple, des courriers d'huissiers, hein, entre guillemets,
oui.
hein, qu'on reçoit par la poste, alors que tout courrier d'huissier, on s'est renseigné, doit venir, comme on dit, de la main à la main.
Oui. Alors il faut distinguer là aussi pour nos auditeurs peut-être comprendre parce que l'huissier peut intervenir là à deux niveaux. Il peut intervenir dans un cadre amiable.
Oui.
D'accord. Donc là il va effectivement inciter le débiteur à régler. Mais dans ce cas-là, si c'est dans un cadre amiable, les frais d'huissier sont à la charge du créancier. D'accord.
Mmh.
Et d'autre part, il y a l'huissier qui intervient dans le cadre des voies d'exécution forcées.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement un titre exécutoire, un jugement par exemple, qui constate une créance.
Tout à fait.
Et lorsque le titre est exécutoire, l'huissier peut obliger le débiteur à payer ce qui est indiqué sur ce titre. Hein.
Voilà, bah, c'est...
On est dans ce cadre-là.
On a ce cadre-là aussi, hein, ce qui, comme vous dites, bah, engendre des frais d'huissier.
Qui hein, s'ajoutent.
Qui sont à notre charge.
Bien sûr. Oui.
Hein, et on a aussi des créanciers qui, on en a un qui nous a, comment dire, on doit passer au tribunal d'instance avec un et avec un autre on doit passer au tribunal de grande instance, ça c'est suivant la somme due.
D'accord.
Hein, donc là ce qui engendre chose qu'on ne savait pas, hein, jusqu'à maintenant, même dans le courrier qu'on a reçu par un huissier concernant la convocation au tribunal de grande instance, nous demande de prendre attache avec un avocat.
Un avocat, oui.
alors que on aurait très bien pu y aller sans avocat. Ça, on l'a su après. Bon, oui. Ça nous a engendré pour ces deux dossiers des frais supplémentaires, étant donné qu'on a pris un avocat pour les deux cas, et dont le cas du tribunal d'instance, où là, l'avocate a décelé des grosses failles de la part du créancier.
Du créancier, d'accord.
Et ça va être statué, on est convoqué au mois de septembre.
D'accord, donc il y a une remise en cause de la créance.
Tout à fait.
Alors, est-ce que c'est du montant ou carrément de la validité de la créance qui...
Ce serait la validité de la créance.
Carrément, d'accord. Hein,
et c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, de où on avait appel téléphonique de leur part.
D'accord.
Hein, sans trouver de d'accord ou de proposition de leur part, à part nous dire vous nous devez tant, point à la ligne.
Oui. Hein.
Et l'avocate va certainement plaider jusqu'à aller demander des dommages et intérêts.
D'accord. Alors c'est vrai que les procédures sont complexes, hein, on le voit. Hein,
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'il n'est pas aisé de s'en sortir, je dirais, seul.
Non. Non, non.
C'est pour ça que les conseils qu'on peut recevoir d'associations ou d'autres
professionnels... De votre association, les conseils, on les apprécie beaucoup. Hein.
Oui, mais c'est important qu'on vous donne aussi cette clarté et le chemin à suivre, hein, parce que finalement, c'est ça qui est important pour ne pas être, je dirais, perdu dans cette masse où on peut très très vite perdre pied finalement.
Perdre pied, ne plus avoir confiance en soi ou quoi que ce soit. Hein.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir par rapport à votre situation ?
Écoutez, là, avec votre collaborateur, on a réussi à obtenir de la Banque de France une réponse favorable concernant une nouvelle présentation d'un dossier de surendettement.
D'accord.
Donc le dossier de surendettement, c'est pas vieux, je l'ai déposé lundi après-midi.
D'accord.
Et là, nous avons reçu, deux jours après, on a reçu comme quoi le dossier avait bien été pris en compte et que la commission allait statuer.
Donc là, vous avez effectivement eu le récépissé de dépôt de dossier.
Voilà, c'est ça.
Alors pour autant, ce récépissé de dépôt, je dirais, ne suspend pas les obligations vis-à-vis des créanciers, on est bien d'accord.
Tout à fait. Si vous préférez, donc, ce que je commençais à vous expliquer tout à l'heure, avec votre collègue, c'est votre collègue qui nous avait parlé dans ce cas-là, hein, puisque nous n'avions pas le droit à ce dossier de surendettement, ce serait qu'un des créanciers fasse une saisie sur salaire.
Oui.
Et si vous préférez, il nous avait fait le calcul de ce que ça, le montant de la saisie sur salaire.
Oui.
Et à partir de là, suivant les montants de chaque créancier, nous avons établi un tableau et des sommes
à répartir.
Qu'on leur envoie en début de mois et qu'on paye par chèque.
D'accord, c'est ce qu'on appelle des mensualités de contact.
Voilà.
Voilà, à partir du moment où effectivement on a une capacité de remboursement qui est réduite.
Tout à fait.
Par rapport aux obligations qu'on a vis-à-vis des créanciers, on recalcule un pourcentage pour que les créanciers soient, payés en fonction de la capacité de remboursement. Et selon les mensualités, il y a un prorata qui est calculé. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça, on est bien d'accord. Donc ça, c'est important parce que, comme vous le disiez, la bonne foi, hein, vous avez parlé de la bonne foi tout à l'heure, c'est vraiment un élément déterminant, je dirais, dans l'appréciation de la recevabilité du dossier de surendettement.
Tout à fait.
Et il faut donner effectivement toutes les chances, pas en prouvant, mais en convaincant de sa bonne foi, tout simplement, hein, parce qu'elle elle se présume toujours, cette bonne foi. Et c'est au créancier ou à la commission de prouver que vous êtes de mauvaise foi.
Si vous préférez, cette mise en place de paiement par chèque, nous l'avons effectuée à la suite de la décision de la cour d'appel, hein,
oui.
À la suite de notre appel. Nous avions pris la somme qui avait été estimée de remboursement par la Banque de France.
Initialement, dans le dossier
initialement.
Initial. D'accord.
C'est ce qu'on avait fait.
Très bien.
Donc, si vous préférez, on a augmenté par la suite, après la prise de contact avec votre association et le calcul qui nous avait été donné. Hein, et ça, nous le faisons donc depuis octobre 2011.
D'accord.
Donc c'est, depuis voilà. octobre 2011, nous envoyons nos chèques tous les mois à nos différents créanciers. Hein, bon, là, c'est encore pareil où certains créanciers, nous suivons nos comptes. Hein, on voit que le chèque a été encaissé. Hein, et deux ou trois jours après, facilement deux ou trois jours après, on reçoit des courriers de ces créanciers qui nous disent qu'ils n'ont pas reçu notre chèque. Par exemple.
Alors qu'il a été encaissé.
Tout à fait.
D'accord.
Donc,
ce sont des éléments qui sont rapportés effectivement à la commission et plus tard, si besoin, devant le juge. Hein,
tout à fait.
Pour montrer effectivement qu'il y a une mauvaise foi de la part des créanciers.
Si vous préférez, c'est ce qu'on a expliqué dans notre courrier lors de notre demande de dossier.
Oui.
Hein, et on a fourni bien sûr les tableaux depuis octobre 2020.
Très bien. Très bien. Alors Alain, pour terminer notre entretien, votre témoignage, quels seraient les conseils que vous souhaiteriez donner à nos auditeurs?
Le premier conseil, c'est de pas suivre et de pas écouter non plus les publicités qu'on peut voir à droite à gauche de crédit
se méfier.
Qu'on donne facilement et qu'on a du jour au lendemain en claquant des doigts, quoi.
Oui. Donc être vigilant par rapport à toutes ces publicités qui sont très attractives, mais qui finalement nous amènent à mettre le doigt dans l'engrenage et
voilà,
après.
Si vous préférez, moi, comme je vous expliquais, étant gendarme, ça va faire 20 ans maintenant, j'ai été muté 3 fois, donc à chaque fois, mon épouse perd son travail, donc on a une baisse de revenus. Et
qui a été compensé par
pour pallier ces manques d'argent, c'est facile, on fait un revolving et puis voilà. Alors sur l'instant, c'est sûr que on se dit ça y est, on est débrouillé, mais on fait pas attention à tout,
exactement,
au pourcentage
d'intérêt.
Et des choses comme ça.
Oui. Et après, effectivement, on se retrouve.
L'engrenage part vite. Hein.
Voilà, tout à fait. Mais écoute, Alain, merci beaucoup pour votre témoignage, qui était très clair.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Et donc, bon courage pour la suite des événements.
Merci beaucoup.
À bientôt sur Radio Crésus. Merci.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour et bienvenue sur Radio Crésus. Donc aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière qui a vocation à vous présenter le travail réalisé par Crésus avec effectivement des jeunes stagiaires, puisque Crésus reçoit régulièrement des stagiaires parce qu'il est important que ces jeunes stagiaires soient formés à leur métier. Et donc nous recevons Tanguy Delagarde.
Bonjour.
Voilà, qui est stagiaire en communication.
En effet.
Voilà, et qui nous aide effectivement, qui aide Crésus sur toutes les questions relatives à la communication interne et externe. Nous avons également parmi nous Johanna Sontag. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Qui a été stagiaire en économie sociale et familiale dans le cadre de son BTS.
Oui, tout à fait.
Qu'elle a brillamment passé et nous la félicitons.
Merci.
Voilà, et nous recevons également Camille Gastiger qui est... également stagiaire qui a terminé son stage de cette semaine dans le cadre de son BTS ESF économie sociale et familiale première année. Bonjour Camille.
Bonjour.
Voilà. Alors c'est intéressant effectivement d'avoir leur retour aussi sur ces stages et je me tourne en premier lieu vers Camille qui vient de terminer son stage aujourd'hui. Donc Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les points que vous avez retenus et positifs de ce stage à Crésus?
Alors
Moi, en premier lieu, j'étais très surprise de voir la relation qu'il y avait entre les bénévoles et les adhérents. J'ai été agréablement surprise, pardon, de voir tout ce qu'on peut faire en partant du simple volontariat. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est un point fort de voir comment on peut avancer tous ensemble.
C'est vrai qu'il y a une dimension humaine que nous défendons à Crésus, hein, dans l'accueil du public, dans la manière d'accompagner les personnes que vous relatez tout à fait. Et c'est vrai que c'est peut-être pas une spécificité, mais c'est en tout cas c'est vraiment un point d'honneur sur lequel nous travaillons, d'améliorer sans cesse cet accueil et l'accompagnement des personnes. Hein. Alors Johanna, vous-même êtes passée par Crésus dans le cadre d'un stage qui a également duré 7 semaines.
Oui.
Et quelles sont aujourd'hui vos observations sur ce stage ?
Ben donc moi j'ai effectué mon stage au sein du service accompagnement budgétaire. Donc ce service permet notamment aux personnes surendettées d'être accompagnées durant toute la procédure, dans leurs difficultés financières. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est
Oui, allez-y, je vous en prie. dans le travail qui a été mené,
la manière de procéder et l'accompagnement qui se fait jusqu'à 10 ans pour certaines personnes.
Vous voulez dire que ça dure 10 ans ?
Oui, l'accompagnement peut durer jusqu'à 10 ans.
Oui, donc c'est vrai que c'est très long. C'est vrai qu'à Crésus, quand on débute un accompagnement, je dirais qu'il est sans durée limitée. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir des personnes depuis 10 ans, alors qu'on accompagne de façon un peu moins fréquente sur certaines périodes, hein, mais dès qu'un besoin est identifié, dès qu'il y a une demande de l'adhérent, effectivement, eh bien, on y répond tout simplement. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'est vraiment pour vous, c'était une surprise ces 10 années.
Oui, voilà, oui.
Oui, de retrouver des personnes qui étaient depuis si longtemps suivies et soutenues par Crésus.
Hein. Oui, tout à fait.
Voilà. Et quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer pour votre futur parcours professionnel ?
Bah, déjà, dans un premier temps, de savoir monter un dossier de surendettement avec les personnes qui le souhaitaient. Dans un deuxième temps, c'est d'établir des budgets avec eux, de voir leurs ressources, leurs dépenses, et d'établir avec eux des mensualités qui soient capables de payer chaque mois.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé des outils qui étaient mis à disposition des personnes qui venaient à Crésus ? Donc sur le budget, la grille budgétaire. Donc
oui, c'est de bons outils qui permettent notamment d'adapter au mieux. D'établir au mieux un budget avec les adhérents et les bénévoles qui les suivent tout au long de la procédure.
Oui. Oui, c'est vraiment important, c'est vraiment des supports qui sont aujourd'hui indispensables pour les personnes. Hein. On le voit que certains ménages, certaines personnes arrivent très bien à intégrer, je dirais, ces outils très rapidement et à redresser la barre en matière de budget dans les 3-4 semaines. Hein. Oui. Donc ça, c'est vraiment un impact très positif que nous constatons et ça fait partie des services que nous rendons à Crésus. Hein.
Oui.
Merci Johanna. Nous allons passer à Tanguy. Tanguy,
oui.
Alors expliquez-nous le travail que vous avez mené en tant que stagiaire à Crésus.
Eh bien, Crésus est une assez vaste organisation puisqu'il y a la fédération, chaque association et une fondation. Et le but principal est de réussir à avoir une communication qui soit cohérente. C'est-à-dire avoir, surtout sur la forme, des modèles similaires entre les différentes institutions, légèrement différenciables, mais qu'on puisse reconnaître la patte Crésus, pour qu'elle soit facilement identifiable.
Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Crésus, hein, à travers les médias. Monsieur Jean-Louis Kiel, président de la fédération, est sur tous les fronts.
Oui, en effet, il est très présent, il se déplace énormément. C'est quelqu'un qui est très investi et cherche à faire valoir aussi rapidement que possible, notamment le fichier positif pour le surendettement afin de limiter ce fléau qui touche la France.
Voilà. Alors par rapport au travail et au stage que vous avez eu à mener, quels sont les points importants et qui pourraient amener par exemple d'autres stagiaires à postuler pour Crésus?
Eh bien, étant donné que Crésus est extrêmement actif, il y a pas mal de travail, ça demande un suivi continu, puisqu'il y a beaucoup d'interventions en externe, notamment avec les déplacements de M. Kiel, mais aussi des formations qui sont faites, vous-même, M. Alder, lorsque vous rendez en extérieur. Il y a de nombreux documents aussi qui sont adressés vers le public externe, puisqu'il y a l'éducation qui est prévue, mais également faire connaître l'association, car les gens en ont souvent entendu parler, mais n'ont pas d'image réellement associée à la notoriété. Et il faut aussi assurer le travail en continu de la communication, c'est-à-dire surveiller la perception que le public peut avoir de Crésus, l'utilisation qui est faite du nom, et toujours rester très précautionneux sur le positionnement que nous avons.
Voilà, donc ça c'est un bon langage de communicant que nous avons là. Donc c'est, alors je crois qu'aujourd'hui effectivement l'image de Crésus, pour ceux qui connaissent Crésus, cette image est très positive, parce que je dirais que l'action que nous menons, on voit qu'elle a effectivement une plus-value et il y a une prise en charge, je dirais, de l'humain dans la manière dont nous travaillons, et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui dans le traitement de certaines situations. Et c'est ce qui explique aussi, je pense, que beaucoup de personnes reviennent nous voir quand elles ont une difficulté et que les accompagnements peuvent durer jusqu'à 10 ans, comme le disait Johanna. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage concernant votre action en tant que stagiaire au sein de Crésus. Merci et à bientôt sur Radio Crésus.
Merci. Crésus.